pour cette déjà septième émission, le bal des poètes, j'ai choisi de vous faire entendre une courte nouvelle de Germain Bonneau. Un été en avance. Oui, la poésie, mais la proésie aussi. Dans ce monde moderne, c'est pas toujours les rimes qui l'emportent, c'est plus le sens, le sensible, le sensé. Alors voici, avec un grand bonheur, j'espère être à la hauteur, un été en avance, de Germain Bonneau. Bonne écoute. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Mai ce matin. Enfin, le premier vrai matin de mai. 15 jours, 3 semaines en retard, mais déjà tout d'un coup, le goût de l'été comme si on y était. Samedi, jour de congé. Jusqu'ici, tout le monde se levait maussade. Imaginez. 6 mois de froid, de neige, de corps transis, de glace dans les os, les pieds dans cette espèce de bouette de calcium, de sable et de neige. L'hiver, 6 mois, long comme un carême. Mais ce matin, c'est le soleil, la chaleur pleine et ronde qui nous rentre jusque dans le ventre. La ville devient douce, charmante. La rue Fafard, assez tôt, se remplit de bonne humeur, d'enfants en culottes courtes avec des ballons, des bicycles et des cris. Ils donnent l'impression d'être plus nombreux qu'à l'automne, qu'ils se sont multipliés pendant l'hiver. Les femmes vont faire leur marché, un peu excitées de s'être habillées en été. Des hommes placotent sur les perrons en fumant. Un chien gambade, s'arrête, renifle, il fait son ouvrage. Toute la vie, enfin, qui s'étale, comme la marée sur une longue plage plate où des petits crabes s'agiteraient joyeusement. Pour Armand, pourtant, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la plage. C'est loin d'être l'été. Chez lui, c'est froid, ce matin. Autant que le samedi d'avant, autant que tous les samedis, autant que tous les jours. Armand, ce n'est pas un intellectuel. Il ne pense pas. Il ne parle pas beaucoup. Des questions lui viennent de temps en temps. Il les écarte. Parfois, il lui suffit de souffler dessus et pfit, elles se désagrègent comme de la cendre et vont s'entasser dans un coin ou se déposer sur les tentures et le papier peint de l'appartement, légères, invisibles. Un rien. Armand fait un travail qu'il n'aime pas, du lundi matin à 8h jusqu'au vendredi soir à 6h pile. Et à 6h10 pile, chaque vendredi, il se retrouve à la taverne coloniale, là où il s'est laissé le vendredi d'avant, là où il y a aussi Alphonse, Alexandre, André et Antonin. Tous des A, des anonymes. Des synonymes. Toute la soirée, les menteries et les fantasmes défilent sur la table, accompagnés de langue de porc, d'œufs au vinaigre et de fromage en grains. Ça coule, ça s'écoule. Et vers les minuit, invariablement, Armand s'écroule et se met à chioler. Alors, invariablement, c'est la procession. Chacun traîne chacun jusqu'à l'auto d'Armand. Et après la tournée tapageuse de livraison des corps, n'entend plus parler des autres jusqu'au lundi matin à l'ouvrage. Armand vit avec Joseph depuis 18 ans, l'âge qu'ils avaient quand ils se sont mis ensemble. Au début, ils étaient allés vivre ailleurs, ils voulaient être heureux. Ce n'était pas vraiment de l'amour, c'était une promesse, l'espoir. Après 4 ans d'errance, de voyagement, à bout de souffle, ils étaient revenus. Presque tout de suite, Joseph avait vécu un mauvais avortement compliqué qui avait laissé des traces. En même temps, Armand avait trouvé ce travail qu'il n'aime pas. et sans qu'ils s'en aperçoivent, la sauce s'était gâtée. Depuis 9 ans maintenant, ils occupent cet appartement au pied de la côte du chemin Saint-Paul, juste en bas de la rue Fafard. L'arrière de la maison donne sur un petit terrain vague où pourrissent des pneus, des matelas, des cochonneries, où les enfants jouent parfois. Aujourd'hui, leur maison sent le moisi. L'horizon est bas et gris comme un plafond sale. Et Joseph est triste. Joseph s'ennuie. Joseph en a assez. Armand dort. On est samedi matin et il fait trop beau dehors. Assise à la fenêtre de sa cuisine, silencieuse, elle va avoir 40 ans. Et elle se sent encore en vie. Elle se sent encore l'envie d'être un peu heureuse. Bien sûr, elle boite. Mais couchée ou assise, ça ne se voit pas. Et puis, ça n'aurait rien à voir avec le bonheur. 3 ans qu'elle n'a pas fait l'amour. 3 ans qu'ils ne se sont pas touchés. Et plus longtemps encore qu'elle n'est plus touchée. 3 ans qu'elle voit surtout le dos d'Armand ou le dessus de son crâne quand il mange. Il ne lui dit même plus si la soupe est bonne ou le rôti mal cuit. C'est vrai que la soupe est toujours bonne et le rôti toujours à point, mais ça se dit quand même, ces affaires-là. Tout à l'heure, Armand se réveillera, bougonnera une demi-heure avant de se lever, puis se lèvera et aura mal à la tête. Joseph ne lui parlera pas. Il ne supporte rien dans ce temps-là. Samedi matin, pas de café, il le prendra dehors en lisant la presse dans une tabagie en ville pendant que Joseph fera comme si de rien n'était. Assez, ce samedi de mai est trop beau et Joseph n'en peut plus. Elle se lève brusquement, trop vite, elle prend appui sur la table de la cuisine. Elle tremble, la table tremble, la terre tremble. Armand bougonne. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle se dit que c'est la dernière fois. Elle va ouvrir la porte de la cuisine et sent un peu de chaleur du dehors lui souffler sur les jambes, sur sa jambe. Elle sent la chaleur et elle sent sa jambe. Même si elle est raide, le sang y circule toujours. Dehors, les oiseaux jacassent. Joseph s'avance sur sa petite galerie du premier étage. La voisine est en train de laver la sienne et se donne de l'entrain en chantonnant une petite valse connue. On dirait qu'elle s'amuse avec son air de petite fille qui joue à la maman, une valse en lavant une galerie. Joseph s'étonne. Ça se pourrait-tu? Ça ne peut pas être juste à cause du soleil. Dans sa tête, Joseph recule. Laissera-t-elle venir le souvenir? Il n'y a pas si longtemps, pense-t-elle, pas si longtemps. 10 ans? 15 ans? Et elle se rend compte que ça fait très longtemps. Le temps d'une vie adolescente, en fait. L'enfant aurait 14 ans aujourd'hui. Elle entend une petite valse avec du piano au fond, puis des violons, tout l'orchestre. La petite valse est devenue grande et éclate dans ses oreilles. C'est beau, comme un bal. Tellement beau. Sef, la porte. Sef, c'est son surnom. Et Sef tombe de haut, de 15 ans de haut. La porte, vierge. Joseph entend bien Armand sur sa petite galerie du premier étage et ne bouge pas. Armand, dans le cadre de porte de la chambre, « Je t'ai dit de fermer la porte, es-tu sourde? » Elle ne bouge pas. « Réveille-toi, bon Dieu! » « Je suis tanné des portes fermées, Armand. »« Mais moi, je veux dormir le samedi matin, puis avec le tapage qu'il y a dehors. » Armand a le ton sec. Joseph s'est retourné. Elle a regardé, à peine Armand. Et elle a baissé les yeux. elle fixe une planche de la galerie. La galerie qui aurait bien besoin de peinture. Je suis tanné des portes fermées, Armand. Qu'est-ce que tu veux dire? Armand voit bien que Joseph n'est pas dans son assiette, qu'il y a une porte ouverte. Oh, puis lâche-moi, j'ai mal à la tête. Joseph suit le maillot de corps d'Armand. Il s'enfonce, entraînant dans la chambre sombre qui empeste le vendredi soir, l'amour empaillé. Elle fait le premier pas de sa jambe raide. Elle s'avance, fragile et têtue. Armand est assis sur le bord du lit, empâté, les yeux rouges. Il se gratte lentement les cheveux, les côtes, comme un vieux singe. Un vieux singe qui se mettrait à l'abri à la veille d'une tempête. À la tête du lit, la petite lampe jaune opalescente est allumée, mais elle n'éclaire pas vraiment. Curieusement, elle ne créerait que des ombres. Comme Armand est assis, penché, il n'y a que le haut de son dos qui prend un peu de lumière et la fait couler sur l'omoplate comme l'eau sur une flaque d'huile. Et l'ombre que fait l'omoplate pourrait ressembler à une blessure, un coup de hache dans un tronc lisse. Joseph ne voit pas le visage d'Armand. Elle hésite, puis se laisse aller comme une interprète qui répète un texte, les yeux accrochés à l'omoplate d'Armand. Armand, faut qu'on se parle. Il ne bouge pas, laisse sortir un borborygme. Je m'ennuie, Armand. Elle ravale sa salive. Oh, je sais bien, tu vas encore me dire que j'ai tout ce qu'il faut. Le manger, la TV, puis que t'as pas envie qu'on parle de ça, mais c'est pas une question d'argent, Armand. C'est pas une question de bébelle. Elle reprend encore son souffle. Je suis tanné, Armand. Je suis bien tanné. C'est plate. Notre vie est plate. On est plate. Et voilà toutes les petites questions d'Armand. Les petits riens qui se collent depuis tant d'années sur le papier peint. Les voilà qui se détachent tout à coup, un à un, et lui tombent sur le dos comme une petite cascade froide et angoissante. Armand ronchonne. Se racle la gorge avec un bruit de souffleuse à neige.
J'ai soif.
Il se lève brusquement, il vacille un peu, et s'élance comme pour une course vers la salle de bain. Mais voilà qu'en essayant de passer la porte, a-t-il le regard embrouillé, le corps engourdi, de son épaule gauche, il bouscule pesamment Joseph. En une seconde, Joseph a vu se rapprocher l'épaule énorme d'Armand. Son regard s'est fixé sur la grosse veine de son cou, à la hauteur de ses yeux, sur l'oreille rouge d'Armand. Et elle reçoit le choc juste sous le menton, accompagné d'un bruit sec de ses dents qui lui claquent dans la bouche. La douleur. Toute la vie, tout son ennui, leur plate existence, le goût du sang, la haine, la morgue, la colère. Elle se prend tout ça dans les dents et s'écrase violemment sur le mur derrière elle. Joseph ne crie pas, elle s'affale seulement. Elle entend maintenant un grondement de tonnerre dans ses oreilles et comme une averse au-delà. C'est Armand dans la salle de bain. Il boit, il pisse. Il n'a presque rien senti. Il revient dans la chambre. La première chose qu'il voit, la seule chose qu'il voit, ce sont les jambes de Joseph en travers de l'entrée de la pièce. Le reste de son corps est dans la pénombre. « Qu'est-ce que tu fais là? » Joseph a le hoquet. « Lève-toi, voyons! » Armand a crié. Joseph ne bouge pas. Son hoquet s'est arrêté. Il s'assoit sur le pied du lit et dit, d'un ton bas, « Joseph! » Des secondes tombent en silence, puis encore plus fort cette fois. « Joseph !» Là, il se penche, se rapproche d'elle et répète plusieurs fois « Joseph ! Joseph !» Joseph ne dit rien et ses larmes ont séché dans son silence. Il commence à la secouer par les épaules, il la brasse de droite à gauche, d'avant en arrière et finit par l'engueuler. Méchamment, il lui jette tout en vrac. Il ne fait pas le détail. Sa jambe raide, son ventre inutile, sa pâleur, sa maigreur, sa froideur, sa tristesse, son petit air de chien. Il dit encore excité. Ça sert à rien de se forcer. C'est comme ça. Ouvre-toi donc les yeux une bonne fois. Tout ce que je veux, c'est la paix, comprends-tu? La maudite sainte paix vierge. Et il répète en cognant la tête de Joseph sur le mur. La paix, la paix, la paix. Armand ne voit plus clair. Il tombe sur le derrière, par terre, avec son dernier cri. Il a lâché Joseph. Et c'est le silence. Armand, en sueur, jette un coup d'œil par en dessous. Pendant de longues secondes, il la regarde. À cause de l'angle de sa tête penchée, il ne la voit que d'un œil. Il a l'impression qu'elle ne respire plus. Ses yeux restent fermés, sans même scier. Joseph est parti. Armand se dit que Joseph est parti. Et très vite, la panique lui vient au ventre, puis monte. Là, c'est le cœur, comme une grosse caisse. Effrayant, avec la panique, l'angoisse, Armand tremble, il manque d'air, de l'air. Il a assommé Joseph. Il l'aurait tué, sans s'en rendre compte. Armand devrait penser vite, mais il manque de pratique. La seule chose pour laquelle il a un peu d'entraînement, c'est la fuite. C'est ce qu'il fera. Les choses pourront toujours s'arranger derrière lui, sans lui. Il a accroché sa veste en passant et le voilà qui descend l'escalier en arrière de la maison. Il descend les marches deux par deux. Il voudrait aller vite, mais ses jambes tremblent, ses jambes qu'il sent de plus en plus faibles. Il a failli manquer une marche et se retient des deux mains à la rampe qui se met à trembler elle aussi. Armand s'arrête un instant, une seconde ou deux. Il pompe. Et tout ce qu'il entend, c'est l'angoisse. Cela a un bruit de souffle intérieur, sourd, unique, comme celui qu'il entend lorsqu'il s'étend dans son bain et ne garde que le nez et la bouche hors de l'eau. Pendant une éternité, il se dit qu'il a tué Joseph et il se demande comment il a fait. Il n'attend pas la réponse. Il efface la question comme il efface Joseph et ne veut surtout pas vérifier. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il faut qu'il s'en aille, loin. Il dévale le reste de l'escalier et s'engouffre dans son auto. Il a de la difficulté à trouver le chemin de la clé de contact. Il parvient et quand le moteur se met en marche, Armand pèse plusieurs fois sur l'accélérateur d'un pied beaucoup trop lourd. Là-haut, au premier étage, Joseph se réveille. Elle a du sang coagulé dans la bouche et terriblement mal à la tête. Elle ouvre les yeux et ne voit que du noir et des points rouges lumineux. Elle entend gronder un moteur et à chaque pulsation violente de son cœur, elle a l'impression que le bruit enfle. Elle ne le sait pas. C'est Armand dans la cour qui n'arrive pas à embrayer, qui tourne à vide, au neutre, l'accélérateur à fond. Joseph était évanoui, seulement évanoui. Et c'est comme ça quand on reprend conscience. On ne sait plus où l'on est. Joseph ne se rappelle pas tout de suite ce qui s'est passé. Elle souffre de partout et elle a mal au cœur. Et pendant que Joseph revient à elle, Armand, lui, fait ce qu'il peut. Finit par enclencher la bonne commande sur la boîte de vitesse. La voiture, tout à coup, fait la folle, vibre, démarre en jetant derrière elle une volée de petites roches avant de s'engager dans la côte en zigzaguant. Tout cela fait un bruit épouvantable. Joseph respire normalement. La voiture monte la côte du chemin Saint-Paul sans changer de vitesse, le moteur à plein régime. Sur les perrons de la rue Fafard, les hommes se sont arrêtés de parler, le visage tourné vers le bout de la rue. Leur cœur bat plus vite, leurs mains se sont crispées sur les bras de chaise, sur les gardes de galerie. Les enfants ont arrêté leurs courses et leurs cris. Un ballon continue à rouler sur l'asphalte en travers du chemin Saint-Paul. Armand, par réflexe, donne un brusque coup de frein et tout de suite remet son pied sur l'accélérateur jusqu'au plancher. Rien qu'un ballon. Le vrombissement de la voiture se fait assourdissant en croisant la rue Fafard qu'elle dépasse dans une embardée et court encore. Les hommes sur les perrons se regardent. Ils restent tendus. Dupré est pressé un matin. Il va finir par tuer quelqu'un à chauffer en fou comme ça. Les enfants ont perdu un ballon, mais personne n'en fera un drame. Et puis il fait tellement beau ce matin, cette chaleur, cette lumière. Même le son de cette sirène de police au loin, loin de la rue Fafard. On dirait vraiment que c'est l'été, un été en avance. En bas de la côte, Joseph revit. Elle revivra et personne, jamais plus personne, ne pourra lui faire croire qu'il est trop tard. Plus jamais. Merci, Germain Bonneau, pour cette nouvelle. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de cette 7e émission. Le Bal des Poètes est une production de Production de l'Onde. Au microphone, choix des textes, des musiques à les accompagnants, Edgar Bory. Au son, mixage, Louis Morneau. Le Bal des Poètes est heureux de vous avoir eu encore une fois à l'écoute. Merci et à la prochaine.